Bienvenue sur La Tech à l'envers, le podcast qui explore les dessous de la tech pour en développer un usage éclairé et respectueux de notre vie privée. Salut, je m'appelle Clément Donzel, expert en cybersécurité et ex-directeur des réseaux sociaux chez Microsoft.
Salut, je m'appelle Magali, je suis spécialiste en sommeil, praticienne en hypnothérapie et ex-Microsoft. Ici, nous explorons les coulisses de la tech à travers le regard aiguisé d'experts en marketing, en design, en psychologie cognitive, en neurosciences et bien d'autres.
La tech à l'envers, c'est un espace de dialogue et de découverte sans moralisation où la curiosité est reine. On vous invite à nous rejoindre dans cette aventure pour apprendre, s'interroger et peut-être même changer notre façon de vivre avec la technologie. Prêt à regarder la tech sous un autre angle? C'est parti! Aujourd'hui, nous vous proposons de faire l'éloge du bug. Faire l'éloge du bug, c'est développer sa curiosité numérique, c'est favoriser sa prise d'initiative, c'est questionner ses usages, c'est refuser une forme de passivité technologique et reprendre en main les dispositifs que nous utilisons au quotidien. Faire l'éloge du bug, c'est faire naître l'esprit critique en favorisant la bricole, c'est défaire, démonter, pour mieux comprendre les dispositifs et ne plus les subir. Rendre le monde plus intuitif, plus efficace, plus fonctionnel, telle est la promesse des acteurs du numérique. Pourtant, ne risquons-nous pas de réduire notre monde à une vision simpliste dictée par des intérêts avant tout économiques? Quels sont les risques liés à l'acceptation d'activités toujours suggérées et validées par les dispositifs numériques comme les notifications, le design et l'ergonomie? Comment la rhétorique de l'immatérialité limite notre capacité de compréhension? Comment imaginer des alternatives qui remettent la scolée au centre du dispositif? Loin d'être technophobe, notre invité aujourd'hui prône un usage décomplexé et aventureux des outils numériques où l'utilisateur est le moteur premier et principal. Donc remettre la technologie au service de l'humain, c'est le sujet que nous avons le plaisir d'aborder aujourd'hui. Marcello Rosati Vitali, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, spécialiste des questions relatives aux technologies numériques, professeur à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques. Et on vous doit un ouvrage paru dans la collection Zone aux éditions de La Découverte, l'éloge du bug. J'ai envie de vous poser la première question pour rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez nous aider à définir aujourd'hui ce qu'est un bug et dans quelle mesure faut-il plutôt les chérir plutôt que de chercher à les résoudre?
Tout à fait. Donc, d'un point de vue, commençons par l'histoire de ce mot. Il y a une histoire un peu, mythique et puis une histoire un peu plus réelle. Commençons par la légende. La légende veut que dans un ordinateur, Harvard Mark II, l'équipe, à un certain moment, l'ordinateur ne fonctionne plus, et puis l'équipe de développement, en particulier qui était menée par Grace Hopper, découvre qu'il y a une mythe, un papillon de nuit dans les circuits de l'ordinateur, et donc une petite bête dans l'ordinateur, un petit insecte, et dans les logbooks, donc dans le registre de l'ordinateur, quelqu'un de l'équipe écrit le premier cas réel de bug a été trouvé. Alors, souvent on dit que c'est la première fois qu'on utilise le mot bug, donc que l'idée de bug viendrait du fait qu'il y a un insecte, un véritable insecte qui rentre dans les circuits et qui en fait fait en sorte que l'ordinateur arrête de fonctionner. Alors, cette histoire est authentique, c'est vrai, ça s'est vraiment passé, mais ce n'est pas de là que vient le mot bug. En fait, on le comprend si on fait l'analyse du logbook qui dit justement premier cas de véritable bug, donc insecte trouvé. C'est clair que l'usage métaphorique était déjà existant, d'où la blague typique un peu de la rhétorique geek, hein, des informaticiens, des informaticiennes, donc de dire, là, cette fois, c'est vraiment un insecte. Hein, donc, un insecte, pas dans les sens figurés, mais dans les sens réels. L'histoire, donc ça arrive, je pense, dans les années 40-50, et en fait, l'histoire du mot remonte à bien avant et on retrouve le mot bug utilisé pour signifier des dysfonctionnements techniques déjà au 19e siècle. Donc Edison par exemple l'utilisait. Je n'ai pas fait une recherche exhaustive, hein, donc je ne sais pas quand on a commencé à l'utiliser, mais en tout cas déjà on l'utilisait bien avant l'informatique, donc 19e siècle, pour signifier juste un dysfonctionnement technique, hein, un bug qui arrive dans un système de même mécanique. Alors pourquoi, d'où la question, hein, le mot évidemment, une des premières significations, la plus simple en anglais moderne, est insecte, mais ce n'est pas en réalité n'importe quel insecte, à la base c'est la punaise et plus particulièrement la punaise de lit. C'est ça que veut dire le mot bug. Mais quand on va regarder l'étymologie du mot, d'où ça vient, bah en fait, au début, le mot bug signifie spectre. D'où mon hypothèse, pas très philologique parce que je ne suis pas un historien de la langue du tout, hein, donc prenez cette hypothèse plus comme un récit qui veut signifier quelque chose que comme une véritable recherche linguistique, mais probablement le lien est celui de dire que le sens premier est celui des spectres. Et en fait, la punaise de lit est un peu comme un spectre, hein, d'où l'idée de bug en tant que punaise de lit. Pourquoi ? Bah parce qu'en effet, la punaise de lit nous dérange la nuit, nous pique, on ne la voit pas parce qu'elle est trop petite. Ouais. Elle nous fait un peu peur parce qu'on n'aime pas, on n'aime pas être hanté justement par des punaises de lit. Et donc, selon moi, le mot original est spectre. Et il me plaît bien de penser au mot bug utilisé dans le domaine de la technique, plus en particulier de l'informatique, comme un dérivé de cette idée des spectres plus que d'insectes. Pourquoi ? Parce que les spectres, il a un peu sa propre volonté, hein, sa propre intentionnalité. Il veut faire quelque chose. C'est quelqu'un qui a une vision du monde, hein, qui essaye de faire quelque chose. Et ouais, il peut être méchant, en effet. Méchant au moins par rapport à ce que les systèmes veulent faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le bug ? Fondamentalement, il bloque. Donc, il y a quelque chose de, disons, d'une rupture. Il casse. Ça ne fonctionne plus, mais il ne se limite pas à faire ça. Ça, c'est le début. Donc, on casse quelque chose. Le système était censé faire une chose et il ne le fait plus. Il se casse. Mais il y a quelque chose qui se rajoute. Il fait quelque chose, mais il fait quelque chose d'autre.
Qui n'était pas attendu, oui. Qui n'était pas attendu, bien sûr.
Donc, il y a quelque chose qui est proposé, hein, par le bug qui n'était pas dans le système. Et ça, c'est, je trouve, très intéressant parce que le bug, c'est pas seulement qu'il nous bloque pendant qu'on fait quelque chose, mais il nous fait faire quelque chose d'autre qu'on voulait pas faire. D'où il y a une expression assez drôle, toujours dans l'humour des informaticiens et des informaticiennes, qui est it's not a bug, it's a feature. Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Bien alors normalement, vous la connaissez parce que vous venez du domaine de la technologie, donc c'est un peu une manière pour s'excuser auprès de son patron, hein. J'ai développé un truc, ça marche pas, puis je t'ai dit non, c'est pas que ça marche pas, c'est une fonctionnalité. Mais, donc oui, c'est de l'humour, c'est une blague, mais en réalité, ce n'est pas tant, c'est un peu sérieux aussi. Hein. Mmh. Très souvent, il y a beaucoup d'exemples d'ailleurs dans l'histoire de l'informatique, des comportements inattendus qui viennent d'un bug sont des comportements qui ensuite sont choisis comme des fonctionnalités qu'on va garder. Mmh. Donc ça, c'est, il y a des exemples notables comme le nommage des fichiers cachés dans les systèmes Unix, hein, qui sont, donc si vous faites un fichier qui commence dans le nom, commence par un point, hein, le fichier est caché, donc il est par défaut, il n'est pas affiché dans la liste des fichiers. Au début, c'est un bug. Ils n'avaient pas pensé puisque pour remonter d'un dossier dans un système Unix, vous devez faire point, point. Et puisque le dossier présent à Unix s'exprime avec un point, du coup, les développeurs avaient dit, donc quand il y a un point, on n'affiche pas, parce que sinon on va voir quelque chose qu'on ne veut pas voir. Mm-hmm. Mais du coup, le bug était que si j'appelle mon fichier point quelque chose, en fait, je ne le vois pas. Donc, c'est un bug. Et je voulais le voir, je ne le vois pas. Mais en fait, ce bug m'a proposé un comportement intéressant. Et donc, on dit, est-ce que c'est vraiment un bug? Et si je l'utilisais pour mettre tous les fichiers que je ne veux pas voir? Par exemple, un fichier de configuration que normalement, je ne veux pas voir. Donc, je vais appeler .config. Et là, le fichier par défaut va être caché, ce qui m'empêche par exemple de l'effacer alors que je ne veux pas l'effacer, de faire une manipulation que je ne veux pas faire, etc. Donc, quelque chose qui était un dysfonctionnement devient une nouvelle fonctionnalité. C'est intéressant parce que ça produit des nouvelles visions, des nouvelles idées.
Ouais, c'est l'accident qui crée l'opportunité en fait.
Tout à fait.
C'est rigolo à vous écouter. J'ai envie de vous dire qu'en fait, être philosophe, c'est presque être un bug en fait aussi, non? Est-ce que vous ne seriez pas un bug, Marcello?
Tout à fait, j'aimerais bien. J'essaierai. Non, je ne suis pas un bug, mais je pense que la philosophie en est un. Pour moi, évidemment, l'éloge du bug est un éloge de la philosophie, une dernière analyse. Et il y a un lien fort, à mon avis, entre l'idée de bug que je propose et la philosophie. Le passage que je fais, c'est un passage par des premiers philosophes, Socrate, au moins de la représentation de Socrate par Platon. Et alors Socrate, on le sait, il se bloque souvent. Et il se bloque, c'est vraiment très drôle quand on lit les textes de Platon parce qu'on a l'impression d'un ordinateur qui plante. C'est vraiment un peu l'écran bleu, ou en tout cas l'ordinateur qui, tac, à un certain moment, il ne bouge plus, il s'effige. Et Socrate, il fait ça tout le temps. Il y a des situations vraiment drôles où Socrate est en train de marcher, puis bim, il se bloque au milieu du chemin, puis il regarde, il n'est plus là, puis qu'il pleuve, qu'il vente, il reste là et il bouge plus. Donc il est vraiment figé comme l'écran bleu. Et puis il y a d'autres moments où lui-même, il est dit, j'étais sur le point de traverser les fleuves, les démons, et donc il appelle ça son démon, donc il y a quand même cette relation avec les spectres, donc c'est pas lui, hein. Ça c'est ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, non c'est pas moi le bug est externe, hein, ouais. Est toujours externe, il vient d'ailleurs, et il bloque, donc Socrate est bloqué. Ce qui est intéressant, c'est que le démon de Socrate, qui est la philosophie, hein, c'est lui qui représente la philosophie, Socrate ne dit pas « il me bloque quand je suis en train de faire quelque chose de mauvais ». Ce qui pourrait sembler « ok, le démon, il est là, il est bienveillant, il enseigne à Socrate comment il faut se comporter ». Non, non, et Socrate il dit « il me bloque toujours ». En grec, c'est « aei ». Donc, c'est vraiment l'idée de « ça ne marche pas, quoi ». Il ne marche pas, Socrate. Ça ne fonctionne pas. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il le bloque. C'est un dysfonctionnement, c'est un bug qui bloque Socrate, mais c'est dans ces blocages-là qu'émerge la philosophie. La philosophie arrive là, hein, comme quelque chose d'externe. Ça, c'est ce qui m'intéresse. On ne doit pas forcément rechercher l'héroïsme du résistant, hein, c'est-à-dire la personne plus intelligente que les autres, les grands hommes, d'ailleurs très souvent masculins, les grands hommes, les grands philosophes qui pensent quelque chose de complètement original. Non, cette originalité, comme dans les cas de Socrate et pour les cas de tous les philosophes, elle vient de l'extérieur. C'est les petits démons qui arrivent, qui au début rend même ridicule. Hein. Socrate, il est ridicule. Les philosophes sont ridicules fondamentalement. C'est pas des grands hommes, mais c'est des gens qui sont bloqués par cette espèce de dysfonctionnement et qui peut-être sont capables d'écouter ce que ce dysfonctionnement suggère, des voix autres, des voix parfois farfelues, qui peuvent sembler farfelues parce que justement elles vont à l'encontre de ce que on aurait pensé devoir faire, et qui proposent du coup des voies différentes. Je pense que c'est mon éloge du bug est un éloge de la philosophie, hein, c'est que la philosophie peut avoir surprenants, de propositions, de visions autres, aussi des farfelues et aussi d'inutiles.
Et ça fait également émerger la pensée critique, non? Le fait que quand Socrate s'arrête, effectivement, alors qu'il est attendu au banquet, il a une certaine introspection et il permet effectivement dans cette pause de réfléchir aussi à sa condition, ce qui force à la réflexivité.
Tout à fait, il y a cette idée d'un arrêt. En fait, il n'est pas possible d'avoir une pensée critique s'il n'y a pas une rupture et s'il n'y en a pas un arrêt. Hein. Ça, c'est un peu l'idée. D'où le fait que la pensée critique, même si souvent on en fait l'éloge dans notre société, mais je pense qu'elle est vraiment incompatible de façon fondamentale avec le fonctionnement, justement, de notre société. C'est-à-dire que la pensée critique, elle ne sert à rien dans la mesure où elle fait perdre du temps. Et dans une société où l'impératif fondamental est celui d'être productif, la pensée critique est un nuisible. Donc, pour autant qu'on puisse des fois dire hein, c'est important, mais d'ailleurs, quand on fait l'éloge de la pensée critique, on le fait toujours subordonné à quelque chose d'autre. Hein. Il est important d'être critique parce que, comme ça, on va. Et à la fin, les résultats, c'est produire plus. C'est avoir des nouvelles idées, plus innovantes, etc. Mais en fait, moi, je revendique un éloge de la pensée critique en tant qu'inutilité fondamentale qui arrête, qui bloque, qui nuit au fonctionnement de la société. Et je pense que les philosophes aussi ont ce rôle-là, hein, de ne pas être utiles, mais plutôt de nuire.
Donc vous êtes effectivement un bug, alors.
J'ai envie de rebondir aussi sur ce que vous dites, parce que ça m'évoque Sénèque, qui vantait les mérites de l'Ossium, donc en 4 avant Jésus-Christ, pardon, Sénèque, et qui, lui, clairement, faisait un distinguo entre l'Ossium, qui était l'inverse du négocium, le monde des affaires, et même dans l'Ossium, si ma mémoire est bonne, il y avait deux types d'Ossium. Il y avait un Ossium permanent, qui était... la vie des ermites, hein, qui allaient dans des montagnes se retirer pour réfléchir au monde, qui finalement, c'est des philosophes, en fait. Et c'était leur utilité à eux, c'était leur participation, en fait, à la société, de justement se poser, de remettre en question, de réfléchir, et finalement, de faire avancer la société, en réalité, parce qu'elle la remettait en cause. Et l'ossium, pas permanent, du coup, du monde des affaires, où on avait besoin, quand même, de se retirer de temps en temps pour renouer avec ses valeurs et se couper un petit peu de... la bien-pensance de la société pour renouer avec ses propres valeurs-là.
Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, le rapport entre otium et negotium. Alors, première chose intéressante de ce que vous dites, c'est que le terme positif est otium et le negotium, donc l'activité, est le contraire de l'inactivité. Tandis qu'en français, c'est l'inverse. Hein. Donc, c'est activité, c'est le mot positif, et inactivité, ouais. C'est du coup, on utilise le préfixe pour nier. Donc, c'est le contraire de l'activité. En latin, c'est l'inverse. Otium, c'est le positif et negotium, c'est-à-dire l'activité, est la non-inactivité. Hein, vous voyez, donc c'est vraiment un paradigme à inverser. Ce qui est intéressant, c'est que le même fonctionnement, on le retrouve en grec, où le mot otium se dit skolē. Et donc la skolē, c'est ce qu'en français on dirait l'oisivité, hein, et l'activité, ou plutôt vraiment le business, hein, c'est la scolia. Donc, alpha privatif plus scolé. Donc, c'est le non, le business, hein, l'activité, la production, c'est la non-oisivité. Hein. Et donc, les termes positifs est scolé. Et en fait, pour revenir, oui, donc Sénèque reprend aussi des paradigmes qui sont des paradigmes qu'on retrouve dans la pensée grecque. Et en fait, ce qui est assez intéressant, justement, dans notre société, l'oisivité, hein, l'otium est vu comme quelque chose de fondamentalement négatif. Quelqu'un de oisif, c'est pas quelqu'un
qui perd son temps.
C'est quelqu'un qui perd son temps et donc qui n'est pas utile pour la société. On peut pas être oisif. On va pas se vanter d'être oisif. Hein. Moi, si je revendique la nécessité d'une oisivité militante, et cette oisivité est en effet la suspension d'un paradigme de fonctionnement qu'on a naturalisé. C'est-à-dire, pourquoi, déjà se poser la question, pourquoi ça serait mal d'être oisif? Pourquoi notre seule cible, notre seule activité devrait être celle de, justement, être actif, produire? Nous pouvons... La scolaire, hein, donc l'otium, nous propose un paradigme autre. D'ailleurs, c'est intéressant, hein, scolaire, c'est le mot grec dont vient école, par exemple. Donc, l'école est fondamentalement un otium. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une vision de l'école à la base, qui est aussi dans la racine étymologique en français ou en italien, scuola. Qui est l'inverse de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui de l'école. C'est-à-dire, l'école ne sert pas à quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui sert pour, justement, préparer au travail ou acquérir des connaissances qu'ensuite on peut dépenser. Il y a toujours cette idée de fonctionnalité. L'école ne sert à rien, hein, c'est une oisivité, mais cette oisivité est un moment où on réfléchit, on pense, on produit une pensée critique, on médite, et donc oui, c'est important en soi, ce n'est pas destiné à faire quelque chose d'autre. Donc ça, c'est l'école. C'est assez intéressant parce que, en fait, très souvent dans les politiques que nous faisons aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est de dire oui, mais à quoi ça sert d'apprendre aux étudiants cette chose ou pas. En fait, pour moi, la réponse, c'est bah, l'école, il ne sert à rien par définition, c'est de l'otium, c'est de l'oisivité. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle produit un paradigme qui est différent de celui de dire bah, qu'est-ce que j'ai produit, en quoi c'est utile, à qui, etc. Donc, en fait, la philosophie est un peu ça et elle revendique cette... c'est pour ça que je dis, il ne faut pas confondre l'oisivité avec la paresse. Hein. Oui, bien sûr. Ce n'est pas l'idée de « j'ai envie de rien faire hein. ». Non, c'est l'envie de s'impliquer de façon militante dans quelque chose qui ne sert par contre à rien, hein, qui ne produit rien, qui n'est pas dans le système du negotium, hein, de l'activité commerciale. En fait, le problème de nos sociétés, c'est que faire une proposition de ce type-là, c'est fou, mais ça nous semble pratiquement fou, donc aberrant, de dire qu'on ne cherche pas à produire. Hein, je fais toujours à l'exemple, c'est comme quand on dit je vais au cinéma et on essaie de se dire ben, parce que comme ça j'augmente mon capital culturel. Hein. C'est toujours quelque chose, ça sert à quelque chose, j'ai grandi, j'ai plus de. Ça sert même le fait de dire mais pourquoi tu dis pas juste ben non, parce que j'aime bien perdre cet après-midi, quoi, puis c'est tout. Mais même dans ces cas, c'est ben, comme ça j'ai mes ressources. Mais c'est toujours fonctionnel là. Après, je vais travailler plus dur. Voilà. Donc, et en fait, ce que propose la scolaire ou l'otium, c'est de renverser les paradigmes. Non, de regarder le fait de perdre du temps comme quelque chose de positif et pas comme quelque chose qui doit nécessairement être secondaire ou servir à quelque chose.
Et j'aimerais qu'on traite maintenant le sujet de la rhétorique de l'immatérialité. Donc c'est un des thèmes qui est abordé dans votre récit. Et on est plutôt habitué voilà, aux thématiques du cloud, hein, qui est quelque chose d'assez léger. Les nuages, le numérique, alors qu'en fait, en réalité, on fait plutôt face à des câbles qui d'ailleurs longent souvent les chemins de fer et qui tapissent le fond des océans. Avec un coût écologique qui, notamment en lien avec l'IA générative, est de plus en plus important et de plus en plus difficile à cacher. Donc on apprenait, par exemple, il y a quelques semaines que Microsoft souhaitait remettre en place la centrale de Three Mile Island. Google qui annonce un partenariat avec Kairos Power pour l'achat de mini-réacteurs nucléaires qui serviront à alimenter ces data centers. Donc aujourd'hui, est-ce que la rhétorique de l'immatérialité, si vous pouviez déjà la redéfinir, et est-ce qu'elle vous semble aujourd'hui de plus en plus difficile à soutenir ?
Alors, la rhétorique de l'immatérialité, tout d'abord, a une histoire très très longue. ce n'est pas l'invention de Steve Jobs, même si en effet les GAFAM ont eu un rôle fondamental dans la promotion de ce type de rhétorique. Elle a des implications très profondes. Je vais essayer de faire un excursus très rapide, mais elle a des implications politiques très profondes et je dirais même très graves si on n'arrive pas à la dévoiler. Alors, juste pour faire une rapide histoire, les fondations de la rhétorique de l'immatérialité sont des fondations métaphysiques. Hein. C'est l'idée du fait que le monde puisse être fondamentalement divisé en deux. D'un côté, les choses immatérielles qui sont les choses qui comptent plus, hein, qui ont une valeur symbolique supérieure. Et puis, de l'autre côté, les choses matérielles qui comptent moins hein, et qui, normalement, ont moins de valeur symbolique. Cette division, on la retrouve, par exemple, chez Platon, hein, dans les faits, dans les mondes des idées. Donc, toujours, il y a la métaphore... dans le son, on ne peut pas voir, mais c'est vers le haut ou vers le bas. Hein? Donc, c'est les idées, l'immatérialité, la transcendance, tout ce qui est en haut, et puis tout ce qui est en bas, donc la matière, le corps. Dans cette hiérarchie, donc il y a une hiérarchie ontologique très forte, dans cette hiérarchie, on met aussi les êtres humains, hein, qui sont en fait un peu au milieu. Parce qu'ils ont un corps, mais ils ont aussi une âme. Et puis, en fait, ce qui est plus profondément humain, ce qui distingue les êtres humains des autres choses, selon cette rhétorique, et ce qui permet de mettre les êtres humains au-dessus des autres choses, par exemple des animaux, par exemple de l'environnement, hein, par exemple de toutes les choses, c'est l'effet que les êtres humains sont plus proches de l'immatérialité. Justement, les êtres humains ont une âme. Hein. Et ça, cette rhétorique, en fait, permet aussi de faire des distinctions parmi les êtres humains en faisant une différence entre des êtres humains qui sont plus humains que d'autres êtres humains. Alors, juste pour faire l'exemple des discriminations qui sont mises en place pour dire qui vaut plus. Donc, faire une différence entre les élites, finalement, et les subalternes. Juste pour faire un exemple qui a aussi une tradition métaphysique longue, la différence entre hommes et femmes. Les hommes étant du côté de l'immatérialité, de tout ce qui a de la valeur symbolique, hein, la forme, hein, les contenus, et les femmes étant du côté de la matérialité. Hein, elles nourrissent l'enfant, elles s'occupent de la maison, elles s'occupent de faire le feu, comme dans les tableaux, le philosophe de Rembrandt, hein, le philosophe qui pense à côté de la fenêtre la lumière, puis derrière la bonne femme qui met le bois dans la cheminée. Donc évidemment, il y a le grand philosophe, puis la petite femme, hein, c'est que Margot Mellet appelle les petites mains. Hein, Margot Mellet, une chercheuse canadienne, française et maintenant canadienne, qui a écrit une très belle thèse sur cette idée des petites mains, hein, en faisant voir comment dans ces petites mains, on met toute une série de tâches hein, qu'on considère comme triviales et comme pas porteuses de sens. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Hein. Alors, cette rhétorique-là qui a ses implications politiques cache une réalité bien plus complexe, c'est que finalement, du côté de la matière, au contraire de ce que cette rhétorique voudrait suggérer, au côté de la matière, il y a du sens qui s'est produit. Ou peut-être même, il n'y a que la matière qui pense. Hein. C'est-à-dire que finalement, ce sont les petites mains qui produisent l'essence. Alors, du côté de l'appropriation de cette rhétorique par les grandes entreprises technologiques et par les GAFAM, l'immatérialité permet d'une part de valoriser l'entreprise technologique et de l'autre part d'invisibiliser les réels enjeux. Donc c'est la double chose. Donc déjà, assez intéressant, comme le montre Isabelle Collet, une collègue qui travaille en Suisse et qui a travaillé beaucoup sur le rôle des femmes, justement, dans la place des femmes dans l'histoire de l'informatique. Et Isabelle Collet montre que à un certain moment, au début, l'informatique était quelque chose qui était destiné aux femmes et aux filles. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est considéré comme une activité justement très matérielle et assez triviale. Donc ce sont les secrétaires qui deviennent informaticiennes. Et ces informaticiennes-là, d'ailleurs, sont complètement invisibilisées. On ne les voit pas, on ne sait pas leur nom. Souvent, elles apparaissent dans des photos, puis on ne sait pas qui c'est.
Exact, dans la couverture de votre livre.
Dans la couverture de mon livre, exact. Vous avez Ruth Teilenbaum dans la couverture de mon livre, et qui était une des informaticiennes complètement invisibilisées d'un projet d'un des premiers...
Mais aussi dans le discours, hein, c'est-à-dire qu'on ne voit pas leur nom nulle part, elles sont absentes complètement.
Et les chercheuses qui ont essayé de faire du travail d'archives pour les retrouver, on leur a dit une fois donc, que la chercheuse demandait « mais c'est qui ces femmes ?» et on lui a répondu « ça doit être des modèles qui ont été mis là pour faire joli ». Donc voilà, mais donc, au début, c'est un travail de femme et il est justement déqualifié d'un point de vue symbolique. C'est du sale travail matériel. C'est du côté de la matérialité. D'ailleurs, on parle souvent du fait que ces matériels, ça peut être facilement disqualifié aussi parce qu'il y a une dimension plus matérielle dans la programmation au début. Il s'agit de débrancher et brancher des câbles. Donc, il y a une dimension beaucoup. Et Isabelle Collet montre qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche d'un univers beaucoup plus immatériel, donc il y a par exemple la figure du hacker, qui naît du cyberespace, tout ça, du coup, vous voyez, on se rapproche d'une rhétorique complètement immatérielle. Il ne s'agit plus de brancher, débrancher des câbles, il s'agit de surfer dans le cyberespace. Là, ça devient de plus en plus un truc de mec.
Masculin, oui.
Et du coup, c'est les départements d'informatique qui se remplissent d'hommes et il n'y a plus de femmes. Hein. Là, dès qu'il y a de la valeur symbolique qui arrive, les femmes ne sont plus les bienvenues. Donc voilà, ça, c'est une des conséquences hein, de cette rhétorique. Donc, vous voyez, c'est vraiment un classement du monde, une hiérarchisation du monde, à haut l'immatérialité, en bas la matière. Et en fait, donc là-dedans, évidemment, bah, si vous voulez vendre un produit, vous essayez de le vendre comme quelque chose qui a beaucoup de valeurs symboliques. Et donc, évidemment, il faut aller vers l'immatérialité. Donc, tous les discours, hein, si on pense justement à la rhétorique du cloud, le cloud, à cette idée d'Internet et le web qui seraient dans l'air. Hein, Nicole Starobiez qui a écrit un livre qui s'appelle The Undersea Network où elle montre justement, elle parle des câbles sous-marins et de toute l'infrastructure des câbles. Et elle montre que si on fait des entretiens avec les gens, on demande aux gens de la rue, vous pensez, il vient d'où votre connexion à Internet? Je le fais souvent avec mes étudiantes et mes étudiants. Et donc si on demande dans la rue à quelqu'un, d'où te vient ta connexion, les gens pensent que ça vient de l'air. Hein. Et en fait, souvent, on a cette idée de autre test à faire, c'est demander combien de pourcentages pensez-vous qui passent par des connexions satellitaires. Les gens pensent que c'est un pourcentage important, hein. Alors que c'est négligeable, pourcents, hein. C'est 1%, un truc comme ça, c'est vraiment très bas. La quasi-totalité des connexions arrive des câbles. La preuve, si on coupe un ou deux câbles, et d'ailleurs des mêmes câbles, hein, il n'y en a pas beaucoup, si on coupe un ou deux câbles transatlantiques, on perd une grosse partie du flux des données. Donc, c'est aussi très fragile, cette infrastructure matérielle. Hein. Donc, il y a cette idée de la rhétorique de l'immatérialité qui nous permet de valoriser, comme ayant une valeur symbolique particulière, ces produits, et en même temps, et donc dire que ce n'est pas du trivial, ça ne se vend pas bien, hein, de dire, Nicole Starobiez qui dit, un câble, ce n'est pas sexy. Tandis que l'air, l'espace, les satellites, il est beaucoup plus sexy. Et en fait, cette chercheuse interview quelqu'un qui travaille à la communication justement d'une entreprise de télécommunication et il dit, mais pourquoi vous, dans votre image, en fait, il y a des satellites alors que peut-être vous en avez un, mais surtout vous avez des câbles. Et donc, la personne qui fait partie de la com de l'entreprise, elle dit, parce qu'un satellite est beaucoup plus sexy qu'un câble. Hein. Et pourquoi il est sexy, justement? Parce qu'il est à eau. Hein. Il fait partie de cette chose. Évidemment, un satellite non plus, il n'est pas immatériel. Mais il se rapproche de l'hyperuranium de Platon. Hein. Il est à eau, il est presque immatériel.
Et on ne le voit pas.
On ne le voit pas.
Donc il a une autre valeur symbolique qui permet aussi de vendre, j'imagine.
Tout à fait. Et en même temps, cette rhétorique permet donc de valoriser, d'une part, mais aussi de cacher les véritables enjeux. C'est ce qui se passe. Donc, tous les enjeux, par exemple, géopolitiques de où passent les câbles. Hein. Ce que les câbles font en tant qu'infrastructure à des fonds marins, mais aussi des communautés. Hein. Une petite île au milieu du Pacifique où passent des câbles. Et en fait, toute l'économie s'est refait autour du fait que ça devient un point stratégique pour le passage d'informations. Donc, ça, c'est des exemples. Ou sinon, un exemple que je fais dans les livres, justement, où passent les câbles et pourquoi? En fait, ce sont des histoires politiques très longues. Alors, il se trouve par exemple qu'aux États-Unis, alors il y a des villes, hein, il y a une ville en particulier, je ne me rappelle plus le nom actuellement, mais où il y a plein de centres de données hein, qui commencent à naître. Et puis on peut se demander pourquoi ici c'est une ville un peu au milieu de nulle part, une petite ville, et puis il y a plein de centres de données qui émergent. Et puis en fait on remarque qu'il y a le chemin de fer qui passe. Et en fait alors là vraiment si on analyse la matérialité on comprend aussi les enjeux géo, vous avez retrouvé les noms de la ville entre temps, Cliff quelque chose, je ne m'en rappelle plus, en fait il y a si on analyse la matérialité on se rend compte de pourquoi, donc on se rend compte aussi de la valeur économique hein, de certains endroits. Pourquoi un champ au milieu de nulle part a une valeur immense? Parce que Google, Facebook, Microsoft vont acheter des terrains pour mettre des centres de données. En fait, c'est parce qu'il y a le chemin de fer à côté. Quel est le rapport? Le rapport, c'est qu'il va y avoir le câble. Donc, les centres de données doivent être à côté des câbles. Et les câbles, par où on passe les câbles. Ben, en fait, si vous devez passer un câble de l'Est à l'Ouest des États-Unis, vous avez deux choix. Un choix, c'est d'aller frapper à la porte de tous les propriétaires de l'Est au Ouest. Donc, vous faites 5000 km en faisant jardin par jardin. Est-ce que je peux passer les câbles chez toi? Et évidemment, avec tous les problèmes que cela comporte, ben, parce qu'il y a les propriétaires qui disent, ben non, pas dans mon jardin. Donc là, il faut faire un détour, etc. Ou bien, vous passez un contrat avec une société, ben, la société des chemins de fer, qui vous dit, ben, d'Est en Ouest, ben, vous passez tout le long du chemin de fer. Donc, et alors, où est l'intérêt et les enjeux historiques et géopolitiques? C'est que le même chemin de fer qui a été construit en plus avec... vous avez trouvé.
C'était Sweetwater?
Non, Sweetwater, c'est... Ah, ça, c'est une belle histoire, mais je vais vous la raconter après, c'est l'histoire. Sweetwater, c'est un lieu fictif hein, de Sergio Leone, mais qui raconte un peu cette histoire, justement. Donc, dans Sergio Leone, on a, donc, dans les films Once Upon a Time in America, donc il était une fois en Amérique, il y a cette histoire de, justement, de cette jeune femme, Claudia Cardinale, l'actrice, qui arrive dans ce village, Sweetwater, au milieu de nulle part, où elle s'est mariée avec un homme, donc elle s'est mariée avant d'arriver, et puis et l'homme en question lui a dit « je suis riche », et tout le monde pense qu'il est fou parce qu'il habite dans un trou paumé où il n'y a rien, on ne peut pas cultiver, etc. Et le mec il dit « je suis riche ». Donc elle arrive, et quand elle arrive, ben, en fait les enfants, cet homme et ses enfants viennent de se, parce qu'il est veuf, viennent de se faire tuer hein, par des assassins, et elle arrive et tout le monde lui dit « bah, part, tu vois, le mec, il était fou, il t'a dit qu'il était riche, mais il n'a rien, il a juste cette ferme au milieu des cailloux, ça vaut rien, et Claudia Cardinale décide de rester. » Donc, le personnage décide de rester et cherche, il se questionne de pourquoi cet endroit, pourquoi le mec, il disait qu'il était riche. Donc, elle commence à chercher dans les tiroirs de la ferme si elle trouve quelque chose, et à la fin, elle trouve quelque chose, elle trouve une maquette de gare. Et donc elle commence à s'interroger. En fait, Sweetwater, comme le nom le dit, avait une seule qualité, c'est qu'il y avait des loups qui passaient. Et du coup, on savait, donc son mari hein, savait que c'est de là que devaient passer les chemins de fer. Donc en fait, il ne possédait pas un terrain caillouteux au milieu de nulle part, il possédait une ville. Parce qu'une ville allait se construire là. Donc l'analyse matérielle de l'infrastructure permettait... Et alors ce qui est intéressant, c'est que ce personnage de Claudia Cardinale, du coup, elle reste et puis elle construit la ville. Voilà, donc elle devient une riche femme qui est la propriétaire de la gare et de la ville qui s'est construite autour. Mais en fait, si elle avait vécu 100 ans, elle aurait été aussi la propriétaire des fermes de données. Hein. C'est la même infrastructure. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette infrastructure qui a été construite avec pas mal de sang, hein, les chemins de fer construits avec des guerres, des destructions, justement des assassinats de Premières Nations, etc. Ben, en fait, c'est la même infrastructure ensuite qui sert à porter les câbles qui portent l'infrastructure d'aujourd'hui et qu'utilisent les grandes sociétés d'aujourd'hui. Mais c'est clair que parler de cette matérialité-là ne nous fait pas trop plaisir.
Ouais, c'est clair.
Et un sujet qui m'intéresse tout particulièrement également dans votre livre, ce sont le rôle des algorithmes et l'impact des algorithmes. Et notamment comment ils peuvent aussi influencer notre représentation du monde. Alors typiquement à l'image des flammes sur Snapchat qui ont le pouvoir de redéfinir la notion d'amitié, vous parlez des applications comme Tinder ou encore le moteur de recherche Google hein, qui propose finalement un seul modèle de représentation du monde qui n'est pas forcément négatif, mais l'unicité du modèle peut être potentiellement remis en question. Et pourriez-vous nous dire en quoi cela constitue-t-il finalement un problème?
Alors, je dirais que le problème, et le problème que contribue à révéler au moins le bug, c'est le fait de penser qu'il n'y a pas de vision du monde derrière des approches algorithmiques. À savoir, en nous vend un peu hein, l'idée de bah, « c'est juste un calcul ». Donc, il n'y a pas de biais. Hein. C'est objectif. Hein. C'est un peu cette idée de tout ce qui relève d'une approche algorithmique, bah, puisque c'est le fruit d'un calcul, ne peut pas contenir des biais. D'ailleurs, cette rhétorique, on la retrouve dans la politique de Google Search, au moins au début, où on parlait beaucoup de référencement naturel. qui est assez drôle, parce que naturel, mais fait par un algorithme, donc c'est artificiel en principe. Mais pourquoi il était naturel et pourquoi on était d'accord avec cette définition? Naturel, ça veut dire qu'on ne le retouche pas. Et on donne les résultats, donc la liste des résultats est telle qu'elle est produite par l'algorithme sans que les êtres humains retouchent. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire naturel là-dedans? C'est le côté positif, c'est, bah, c'est pas qu'on a changé, on a mis cette page avant l'autre pour des raisons publicitaires ou autres. Il n'y a pas de biais, donc c'est pas artificiel, c'est naturel, c'est ce que fait l'algorithme. Et comme si il y avait quelque chose du coup de complètement objectif et neutre dans le choix de l'algorithme.
Et qu'on ne peut pas questionner. Et
qu'on ne peut pas questionner, évidemment, c'est les seuls modèles possibles, c'est les meilleurs possibles. Hein. C'est vraiment l'idée de, bah, c'est la meilleure manière de faire, c'est la meilleure solution, etc. Donc ça, ça marche mieux que ça. Donc c'est la solution parfaite, c'est la meilleure des solutions. Et en fait, ce qu'on cache avec ce discours, c'est que l'algorithme est basé sur des valeurs, des interprétations, des visions du monde. Alors, dans les cas de Google, par exemple, bah, on peut se demander qu'est-ce que la pertinence? Alors, dans la vraie vie, dans dehors des GAFAM, si nous prenons, je ne sais pas, un sujet quelconque, le sommeil, pour parler de quelque chose, et que je vous donne, on se donne quatre livres, je ne sais pas, sur les sommeils qu'on met sur la table, et puis on se dit, nous trois, quel est le plus pertinent? Bah, probablement, bah, d'abord, on va se demander, excuse-moi, pertinent par rapport à quoi? Si tu me demandes lesquels je préfère, probablement, nous allons donner trois préférences différentes. Hein, et nous allons classer les livres de trois manières différentes. Chacun d'entre nous aura sa propre raison pour classer d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors que Google Search, comme la plupart des algorithmes en général sur des GAFAM, nous font croire qu'il y a une seule manière pour dire quelle est la meilleure. Et là, on ne parle pas de 4-5 documents, on parle de millions de documents et on s'est dit, ça c'est le plus pertinent ou les 10 les plus pertinents. Ce qui est intéressant, c'est que la quasi-totalité des usagers et des usagères se limite pas seulement à la première page, mais aux premiers 1 ou 2 résultats de Google. Hein. Donc ça veut dire que parmi des millions, donc l'impact de ces critères de sélection et de classement est immense. Hein. C'est une sélection d'un million de documents à un d'eux. Hein,
ce qui... Surtout que, rajoutons en plus que la plupart des premiers liens sont des liens sponsorisés. Or, la détection de liens sponsorisés versus des liens donc, organiques ou naturels est de plus en plus difficile
aujourd'hui,
à identifier.
Oui. Ce n'était pas le cas avant. Hein. Mais selon moi, le problème n'est même pas là. Aujourd'hui, oui, vous avez raison. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, il y a plein d'autres problèmes, des biais qui sont introduits dans l'algorithme. Mais même au-delà de la question de sponsoriser ou pas, hein, admettons que ça soit pas sponsorisé, donc que ça soit juste le plus pertinent, en effet, selon l'algorithme. Ce que je veux dire, c'est que... Donc, l'idée des naturels hein, organiques. Organique, d'ailleurs, aussi intéressant comme mot. Qu'est-ce qu'il y a d'organique dans l'algorithme hein? Il n'a rien d'organique. Mais bon, enfin, naturel, organique. En fait, même là-dedans, le fait, ce n'est pas que ce classement ne soit pas légitime. C'est qu'il faudrait que les critères de ces classements soient transparents et soient surtout clairs aux yeux des personnes qui les utilisent. Alors, les critères de pertinence de Google, notamment historiquement, pas aujourd'hui, je répète, parce que l'algorithme a été beaucoup changé. D'ailleurs, aujourd'hui, l'algorithme, il fait de la recherche très contextualisée, très située et très publicitaire, finalement. Hein, c'est-à-dire qu'il nous fait trouver ce qu'il pense pouvoir nous vendre, fondamentalement. Donc, l'algorithme a été beaucoup adapté et changé, hélas. Au début, les principes du PageRank étaient des principes tout à fait légitimes, mais situés. C'était quoi? C'était l'idée reprise du Science Citation Index de Garfield. Donc, c'était l'idée de... Un contenu est d'autant plus pertinent, d'autant plus des liens intrants il a, en considérant les liens intrants comme un vote de confiance. Donc, puisque, et là c'était l'idée aussi des articles scientifiques, hein, puisque cet article scientifique est cité par 4000 personnes, il va être plus pertinent que cet autre qui est cité seulement par 3 personnes.
Plus légitime. Alors, parce que les deux fondateurs étaient aussi des universitaires et ils avaient réutilisé la manière de classer.
Blaine et Page étaient réprimés, des critères qui étaient des critères émergents, pas émergents à l'époque, mais qui ont émergé dans les années 50, hein, Garfield c'est années 50, donc pour classer les contenus scientifiques. Alors, cette méthode de classement est intéressante, Mais évidemment, elle a des avantages et des inconvénients, comme toute méthode. Parce qu'évidemment, il y a plein d'effets. Je ne vais pas m'arrêter ici, mais il y a des effets aberrants. Hein. L'article qui est cité par tout le monde, bah, qui est de plus en plus cité juste parce qu'il est cité, pas vraiment parce qu'il est intéressant, mais puisque lui, il le cite, bah, je vais le citer moi aussi. Et puis, il y a des effets aberrants, comme par exemple le fait que, pour quelle raison j'ai cité l'article ? Un article très cité peut être très cité juste parce qu'il est très mauvais. Hein, et donc tout le monde le cite, mais pour dire que c'est vraiment pas intéressant ou c'est vraiment pas bien, et bah du coup il devient très pertinent, alors que les raisons pour lesquelles il obtient un niveau de pertinence très élevé, bah sont les mauvaises raisons.
Donc, mais au moins il y avait une certaine transparence algorithmique, ou en tout cas on comprenait le mécanisme de classement.
Et le problème, c'est que en fait on devrait être capable de se dire, bon, ok, il y a une vision du monde particulière derrière, qui est celle de: bon, si nous définissons la pertinence de cette manière, voici les contenus les plus pertinents. Mais il pourrait y avoir d'autres manières de juger la pertinence. Par exemple, bah, avec des critères plus proches de ceux qu'on utilise aujourd'hui, la réponse la plus proche de ta manière de voir les choses, ou la plus proche de où t'es. Aujourd'hui, les algorithmes font pas mal ça. Ou n'importe quel autre critère, par exemple, celle écrite par la personne qui a un titre d'études plus élevé, ou validé par un nombre de personnes plus élevé. Bon, je veux dire, il y a toutes sortes de critères. Les problèmes, du coup, n'est pas tellement que l'algorithme ait une vision du monde, ce qui est toujours le cas. L'algorithme implémente une interprétation des choses. Mais ça, c'est normal. Ce qui est problématique, c'est qu'on pense que ce n'est pas le cas, et que du coup, l'algorithme n'implémente pas une vision, mais il représente la seule manière pour faire, et donc il est neutre, hein, il est neutre, il porte aucune vision, donc il est objectif. Donc c'est la seule manière pour faire. Ça, c'est très problématique, encore plus problématique. Donc là, dans les cas des critères des recherches, c'est évidemment problématique, mais ça devient encore plus problématique et plus évidemment problématique quand on parle, par exemple, d'un algorithme qui match des personnes. Donc quels sont les critères selon lesquels une personne peut aller bien avec une autre, donc les cas par exemple de Tinder, hein, bah évidemment là aussi on aurait autant de descriptions et de visions qu'il y a des personnes dans le monde. Chacun dirait, pour moi il est important de trouver quelqu'un qui soit, je sais pas, compatible ou différent, ou plus comme ça ou plus comme ça, ou juste vivre bien ensemble, j'en sais rien. Chacun aurait sa manière de définir
ses propres critères.
Et en fait, ce qu'on fait, c'est que bah, des plateformes comme Tinder, hein, qui deviennent super utilisées, donc il y a une concentration d'usage, et on a l'impression de dire, bah, il me propose les personnes les plus pertinentes. Et puis en fait, ces critères de choix sont naturalisés, hein, deviennent comme si c'était la seule manière de voir. Or, il se trouve que d'ailleurs, ces critères sont très problématiques d'un point de vue politique. Quand on lit le brevet, hein, derrière l'algorithme de Tinder, alors, chose intéressante, ils n'ont pas breveté l'algorithme parce que l'algorithme est inconnu, et il reste propriétaire, mais ils brevettent les principes. Donc c'est vraiment très drôle, parce que c'est comme si on brevettait un discours, et en plus un discours raciste et sexiste. Donc ce qui est vraiment, parce que clairement dans les brevets on dit que le fonctionnement de la plateforme, par exemple, on pourra matcher un homme plus vieux avec un titre d'études supérieur et avec un salaire supérieur avec une femme plus jeune avec un titre d'études inférieur. Donc là on est en train carrément de modéliser le sexisme, hein, un dispositif sexiste,
et on le brevette.
Et en fait ensuite on les naturalise, parce que du coup vous comprenez qu'il y a donc les PDG de Tinder, quand on lui avait dit, bah, c'est complètement sexiste et raciste ce que tu dis, parce qu'il y en a plein, hein, des cas, donc au niveau d'intelligence et aussi ethnie, etc., une série des choses qui sont prises en compte. Et donc on lui dit, c'est grave. Et il dit, bah non, ça représente juste la façon qu'ont les gens de voir le monde. Donc moi, je sers mes clients. Donc soit, mais en fait, à l'effet de s'adapter à la vision sexiste prépondérante, on la renforce, parce que si un usager, en fait, lui, il n'était pas sexiste, mais on lui suggère que des filles plus jeunes, c'est clair qu'à la fin, il va lui aussi tomber dans le modèle, même si il cautionnait pas un entrée. Hein. Donc, il y a un côté prescripteur de ces algorithmes. Et même chose, j'ai pas d'idée de pertinence, mais en fait, le fait d'utiliser de plus en plus Google me fait à la fin coller mon idée de pertinence à ce que suggère Google.
Marcello, j'ai une bonne nouvelle. Dans leur ouvrage « Algorithm of Resistance », les auteurs Tiziano Bonini et Emiliano Terre décrivent comment les travailleurs, les influenceurs et les activistes du monde entier développent des tactiques de résistance algorithmique en s'appropriant et en détournant ces mêmes algorithmes à leurs avantages. Cette forme de détournement de l'outil numérique peut-il être, selon vous, comparable à une forme de bug ?
Tout à fait. Alors, c'est une des formes que j'appellerais, oui, détournement, si on veut. C'est le fait d'essayer de faire, justement, de détourner. C'est un peu une action à la, un peu situationniste, hein, à la Guy Debord, l'idée du détournement, hein, d'utiliser autrement, de faire à une chose l'inverse de ce qu'elle fait. Et c'est sans doute une des formes de bug que je propose. C'est-à-dire, c'est le bug un peu qui sert à rien, hein, qui fait faire autre chose, qui détourne, qui mène ailleurs. Alors, je pense que c'est ce type d'actions sont fondamentales sans pour autant croire, je ne suis pas très optimiste, c'est-à-dire je ne pense pas que ces actions feront changer le monde. Peut-être il n'est même pas question de changer le monde. Je pense que ce qui est important, c'est que ces actions montrent la possibilité d'alternatives, donc ont une capacité des résistances situées et locales. Hein. Donc je ne crois pas, pour le dire autrement, que ça deviendra des modèles dominants.
Ça ne remettra pas en cause le modèle ?
Non. Mais ça en créera d'autres qui restent parallèles, peut-être minoritaires. Je crois de plus en plus à ça, je crois aux communautés, aux petites communautés qui produisent des alternatives, des modes alternatifs d'existence, hein, de vie, qui, oui, ne seront jamais mainstream, mais qui quand même ont une importance fondamentale parce que c'est des paradigmes autres. Et en effet, la résistance algorithmique, ça peut en faire partie, comme toute une série d'usages minoritaires de lieux, on va dire, numériques, que ce soit des formats, des algorithmes, des protocoles, des technologies, hein, qui restent peut-être minoritaires avec des petites communautés, mais qui permettent l'existence de modes et visions du monde autres, alternatives, et pas réduites à une seule manière de voir le monde et un seul système de valeurs.
Finalement, dans votre discours, vous soutenez qu'être libre, c'est d'abord chercher à cultiver sa propre autonomie. Et c'est ce que prônait le philosophe grec Épicure. On a tendance à penser Épicure comme un dieu, comme un philosophe, pardon, qui prônait les plaisirs de la chair et de la vie, mais en réalité, c'était un adepte de la simplicité volontaire. Il s'était installé avec ses disciples dans un jardin en retrait d'Athènes. Et ensemble, ils consacraient leur journée à travailler de leurs mains pour survenir à leurs maigres besoins. Donc finalement, être libre, c'est forcément se mettre en marge de la société, d'après vous ?
Pas nécessairement en marge. Alors, un mot d'abord sur le pauvre Épicure, parce que vous dites bien, en fait, Épicure a eu très mauvaise presse, hein, pendant des siècles. A eu très mauvaise presse aussi à cause de la rhétorique de l'immatérialité portée cette fois-là par le christianisme. Donc le christianisme a fait une lutte sans quartier à Épicure en particulier, qui d'ailleurs a été complètement perdu. Il y a très peu d'écrits d'Épicure et c'est pas un philosophe qui a été très suivi et justement très souvent lié à cette idée de excès des plaisirs, hein, donc le matérialiste qui ne croit à rien. En fait, c'est plutôt l'inverse, hein, c'est une philosophie très riche, mais en effet c'est une philosophie matérialiste. C'est un des matérialistes de l'Antiquité, avec l'idée aussi d'une réduction du monde à la matière, ce qui ne plaisait pas du tout à la théologie chrétienne, hein, qui croit à une transcendance, à l'au-delà, etc. Et en fait, en effet, Épicure suggère une idée de liberté assez particulière, qui est, juste comme vous le disiez, une idée de liberté comme autonomie, qui s'oppose à une autre idée de liberté, qui est, qu'on pourrait appeler, hein, liberté comme délivrance. Donc, délivrance, c'est-à-dire, on se libère des choses qu'on ne veut pas faire. Donc, par exemple, je suis délivré de la tâche, hein, de devoir, je sais pas, jeter mes poubelles ou de devoir me faire à manger ou de devoir chauffer ma maison, etc. Et je suis libéré de ça, donc ma liberté c'est ça, c'est, je peux m'occuper des choses plus importantes, mais en fait cette liberté c'est ce que nous vendent les GAFAM, hein. Donc ne t'inquiète pas de comment on fait pour faire ça, ça, ça et ça, on va les faire pour toi et puis tu dois rien faire, mais en fait cette liberté là, hein, comme délivrance, est une liberté qui implique une dépendance. Donc, je dépends, hein, et pas seulement je dépends, mais à un certain moment, je ne choisis plus. La liberté comme autonomie de Épicure est une liberté qui consiste dans le fait d'être capable, d'être autonome, donc d'être capable de faire soi-même les choses, donc de remettre un peu les mains à la pâte. Hein. Donc, Épicure avec l'idée de, ben, je suis dans les jardins, je suis capable de pourvoir à mes propres besoins, ce qui demande aussi, donc au contraire de l'idée répandue à propos d'Épicure, de limiter ses besoins. C'est-à-dire que, bah, évidemment, si c'est moi-même qui satisfait mes besoins, je ne peux pas tout avoir, donc il faut les réduire. Et donc le plaisir d'Épicure, en réalité, c'est le contraire de cet excès qui est souvent peint par surtout les théologiens chrétiens. Mais c'est plutôt l'inverse, c'est une modération radicale et une diminution radicale de ses propres besoins. Est-ce qu'il faut forcément être à marge? Alors, Épicure, en effet, à différence des grandes écoles des philosophies comme les Péripates et l'Académie, donc Platon et Aristote, qui étaient au centre-ville, Épicure s'éloigne. Il y a un peu cette idée de, bah, il faut avoir son propre jardin à cultiver. S'éloigner, au moins, dans le sens de ne pas être mainstream. Voilà, je dirais ça. Est-ce que ça veut dire de s'éloigner physiquement? Je ne pense pas nécessairement. Est-ce que ça veut dire de créer des espaces ou des lieux qui soient libres? Ça, oui. Et donc, typiquement, dans le monde de l'informatique et du numérique, il s'agit d'habiter des espaces autres, hein, des lieux autres, de ne pas habiter, donc de ne pas utiliser la technologie la plus courante, mais de faire quelque chose d'autre. Donc oui, dans ce sens-là, être un parti à marge, mais ça ne veut pas nécessairement dire être déconnecté. Voilà.
Et en lien avec ce sujet, donc vous parlez de littératie numérique, c'est-à-dire développer ces différents usages et ne pas accepter l'homogénéité ou l'homogénéisation de nos usages numériques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette littératie numérique?
Oui, là aussi, je dirais que on a souvent parlé de littératie numérique comme une capacité d'utiliser. Et d'utiliser quoi? Bah, d'utiliser les technologies les plus répandues. Et donc, on en a souvent parlé aussi dans le cadre de l'éducation, hein, littératie numérique égale, bah, donner des appareils numériques, donc très souvent des tablettes ou des choses comme ça, aux enfants ou aux jeunes, etc. Et en fait, pour moi, l'idée de littératie numérique est plutôt l'inverse, hein. C'est l'idée de développer une capacité critique, donc d'être capable plutôt de questionner des modèles, donc d'être capable plutôt d'être à l'écoute du dysfonctionnement. Donc je dirais que la littératie numérique est d'abord une capacité de comprendre la non-neutralité des dispositifs. Donc le fait de se dire, c'est comme disait tout à l'heure, hein, la première chose, c'est de se rendre compte, bah, il y a des visions du monde derrière. Donc ça, c'est une idée. Donc il faudrait de plus en plus développer cette capacité d'analyse, de se dire, bah non, c'est pas juste neutre, hein, il y a quelque chose derrière lesquels. Ensuite, le fait de se rendre compte de la multiplicité des possibles. Hein, je pourrais, justement, j'utilise Google Maps pour aller d'ici à l'endroit X. Ben, en fait, c'est une interprétation particulière de ce que c'est que se déplacer d'un point A à un point B. Il pourrait y avoir plein d'autres possibilités. Donc, il pourrait y avoir ou il y a plein d'autres outils. Et au fur et à mesure, ces questionnements devraient aussi impliquer ou déboucher vers une maîtrise de ce que je fais. Donc, savoir, hein, ce que je fais ou ce que je peux faire. Parfois, cette littératie, bon, on pourrait objecter, hein, à ce propos que, bah, il faut être des privilégiés pour pouvoir se questionner sur l'usage d'outils, ce qui est en partie vrai. C'est pour ça que je fais l'éloge du bug, hein, et pas des héros numériques qui mettent des journées à apprendre des langages de programmation. Pour moi, l'idée, c'est je fais l'éloge non pas d'une activité humaine, mais de quelque chose d'inhumain, hein, qui arrive et qui casse tout et puis qui oblige à se questionner. Mais en tout cas, bon, si les bugs peuvent aider à quelque chose, c'est à ça, c'est casser ce qui marche, donc révéler que c'est pas neutre, il y a un modèle particulier, et faire voir qu'il y a des possibilités autres, et peut-être aider à développer l'envie, hein, de devenir un peut plus maître et maîtresse de
éveiller
de
la curiosité, oui, développer l'esprit critique également.
C'est vrai que moi, c'est une question, mais vous l'avez abordée, en fait, que j'avais envie de vous poser par rapport à, effectivement, votre discours qui peut paraître un peu élitiste, mais vous l'avez évoqué, en fait. C'est vrai que, ouais, tout le monde n'a pas le temps et les compétences pour tout remettre en question et remettre en question les outils numériques qu'on utilise au quotidien. Mais,
tout à fait. C'est assez important. D'ailleurs, vous voyez, dans un système capitaliste, justement, plutôt structuré autour des dispositifs de domination, hein, typiquement, l'employé n'a pas le droit de dire « je ne veux pas de cellulaire hein, », par exemple, ou « je ne veux pas utiliser Teams ». Vous ne pouvez pas, dans votre boîte, dire bah, « moi,
c'était compliqué c'est sûr.
Je ne vais pas utiliser Teams parce que je ne cautionne pas les modèles.
Bah, » Même par extension de smartphone. C'est de plus en plus difficile dans le monde quotidien de ne pas avoir un smartphone.
Tout à fait. Et en fait, bon, moi j'en ai pas, mais justement pour, parce que je suis un privilégié. Hein, je peux me permettre de faire résistance. Je suis prof à l'université. Je peux me permettre de faire résistance avec mes collègues et de dire que je ne me connecte pas sur Teams ou des choses comme ça, où je n'ai pas de téléphone, donc trouver un autre système pour me contacter. Mais...
Et on arrive quand même à se retrouver.
Et on arrive quand même à se retrouver, oui. Mais j'admets, c'est une situation de privilège, des privilèges sociaux hein, et économiques aussi. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on a besoin de demander, hein, comme le disait Brecht, hein, pauvre le pays qui a besoin des héros. On ne peut pas prétendre l'héroïsme des gens qui résistent de façon exemplaire et tragique hein, au système. C'est pour ça que je crois beaucoup plus à donc, l'irruption hein, de l'altérité du bug. Et peut-être aussi, le bug peut être le point de départ de l'émergence de collectifs, communautés, justement, groupes, lieux alternatifs qui permettent justement l'émergence d'usages différents, de façons de penser différentes, de pensées critiques, etc. Et c'est collectifs, du coup, peuvent être très inclusifs et ne pas être limités aux privilèges, aux privilégiés.
Vous n'avez pas de smartphone, mais bon, c'est vrai qu'un smartphone, c'est assez incontournable de nos jours. À quoi ressemblerait le smartphone idéal pour vous, ou bien du moins le cellulaire idéal pour vous? Il serait comment?
Une première chose, bah, pourquoi j'ai pas de smartphone, c'est parce que en fait, bon, déjà il y a seulement deux type de smartphone, c'est qui commence à être une chose agaçante. Hein. Donc vous avez ou des Android ou Google. Vous avez le choix entre Google et Apple. C'est tout ce qu'il y a. Les technologies. Alors le premier problème c'est ça. Donc un manque total de liberté de choix. Donc un choix très très limité, presque imposé. Ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que toutes ces infrastructures sont complètement propriétaire à partir du hardware, donc tous les matériels, les périphériques, donc tous les pilotes, évidemment, et tous les logiciels qui tournent dessus. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Donc la première caractéristique, au-delà du téléphone, hein, même pour les ordinateurs, pour moi, la première caractéristique, ça serait le fait d'avoir des choses libres. Et ça me semble même presque incroyable qu'on puisse, en tant que acheteur, en tant que consommateur, donc même dans un paradigme capitaliste, accepter que, de fait, nous achetons systématiquement des choses dont nous ne sommes pas les propriétaires. C'est-à-dire que j'achète un truc, mais je ne peux pas faire ce que je veux avec parce que bah, le pilote est propriétaire, le truc est bloqué, etc. Puis il y a dedans un petit moteur qui fait ce qu'il veut et je ne peux pas savoir ce qu'il
vous
fait.
Vous ne pouvez pas du tout le changer, le faire évoluer.
On ne peut pas les changer, on ne peut pas l'évoluer, on ne peut rien faire. Et en fait, c'est un peu aberrant quand même. Même, je veux dire, même en restant dans l'optique consumériste et capitaliste, bah, je l'ai acheté, je pourrais faire ce que je veux. Là, vous voyez, c'est les ordis qui sont de plus en plus collés, on ne peut même pas les démonter. Quand on démonte, on casse tout et puis la garantie n'est plus, etc. Comme si on voulait à chaque fois hein, nous protéger de nous-mêmes. Non, mais on le fait pour ton bien. Mais... Donc, pour moi, la première chose, c'est qu'il faudrait prétendre hein, que tous ces dispositifs que nous achetons soient transparents, au moins dans l'effet qu'on puisse y mettre les mains dedans.
C'est valable comme la voiture, hein. Vous citez l'exemple
tout à fait,
également.
Là, on peut citer Crawford, l'éloge du carburateur qui dit la même chose. Hein. Ça, c'est la même chose. Si j'achète une voiture, je voudrais être capable de démonter le liquide, d'ouvrir et de rajouter de l'huile pour les freins.
Alors essayer de le faire aujourd'hui, c'est compliqué.
C'est pas possible. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est que pas seulement je ne peux plus les faire moi à la maison, mais même mon mécanicien, en fait, il ne peut pas avoir les compétences pour les faire. Il branche un iPad dessus et puis il a des messages, il fait ce que le message lui dit, mais du coup il n'y a aucune compréhension et aucune maîtrise. Hein. Et souvent ces technologies qu'on nous vend pour être plus avancées, etc., mais sont simplement inutiles, ça sert juste pour rendre tous les dispositifs complètement opaques. Donc la première caractéristique, selon moi, ça serait celle de l'ouverture, et on est vraiment loin de l'avoir. Après, il y en a d'autres des caractéristiques, c'est le fait du coup de la, donc une possibilité de multiplier d'avoir le choix entre des choses différentes. Et en fait, peut-être déjà ces deux conditions-là permettraient de mettre en place des environnements qui nous conviennent plus. Alors, typiquement, un des problèmes des cellulaires, des smartphones qu'on utilise aujourd'hui, c'est d'être complètement adapté au modèle productiviste et de ce que Maurizio Ferrari s'appelle la mobilisation totale. Hein. C'est le fait de dire je suis mobilisable 24 heures sur 24, on m'envoie une notification à 3 heures du mat, ça s'éclaire dans ma table de chevet, puis je réponds aux mails de travail. Donc, de fait, je suis en train de travailler à 3 heures du mat. Donc, il y a aussi toute une économie de l'attention, pour utiliser l'expression de Yves Citon, qui est problématique. Hein, ce que je regarde, comment, etc. Déjà, si tout ça, il faudrait pouvoir mettre les mains dedans, donc conditions, mais ensuite aussi avoir le temps pour se configurer et se créer des environnements de téléphone qui seraient adaptés à ce qu'on veut faire. Hein. Par exemple, en ce qui me concerne, le fait de séparer de manière nette la vie privée de ma vie de travail, ce sont des choses séparées. Je ne veux pas avoir les mêmes notifications d'un côté avec les photos d'anniversaire de ma fille les devoirs à corriger de mes étudiants. voilà, ce n'est pas la même chose. Donc, et ce n'est pas les mêmes heures, etc. Mais aussi la capacité d'avoir la main sur nos données, sur les rythmes des différents logiciels, etc. Donc, bon, il y a beaucoup de conditions, je pense qu'on est très loin, et la résistance contre les smartphones, je pense que devient très importante. L'autre chose qui me gêne, c'est l'impossibilité de choix, c'est-à-dire que nous sommes obligés aujourd'hui d'avoir, ça c'est la raison pour laquelle peut-être la raison principale pour laquelle j'en ai pas un, c'est que je suis vraiment mauvais élève. Quand on m'oblige à faire quelque chose, je ne le fais pas. et en fait, je trouve que cette réflexion, d'ailleurs, n'a jamais été explicitée. C'est-à-dire que pour avoir même une identité publique, hein, des services publics ou semi-publics comme les banques, etc., en fait, je suis de plus en plus obligé de passer par un téléphone pour m'authentifier, m'identifier, pour accéder à des services qui sont des services de caractère public. Et ça, c'est très problématique. Cette obligation est problématique parce que ces dispositifs, justement, sont des dispositifs des deux sociétés propriétaires, etc., et deviennent des impératifs pour survivre. Alors, comme avoir une pièce d'identité. Mais ouais, le problème, c'est que ce n'est pas un service public, c'est une entreprise privée, du coup, qui garantit de mon identité et de ma possibilité d'évoluer dans une société.
Marcello, ça va faire un petit peu plus d'une heure qu'on discute ensemble. Alors, j'aurais adoré continuer notre échange, mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. En tout cas, voilà, de mon point de vue, vous êtes une vraie bouffée d'oxygène dans ce monde qui se numérise toujours plus. Et vous réussissez aussi la performance d'être technocritique sans être technophobe. Donc, c'est quand même une belle performance. Et c'est ainsi que je vous propose de conclure notre échange. Donc, Marcello, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci pour l'invitation et pour la belle discussion.
Et j'espère que vous aurez pris plaisir à perdre cette heure avec nous, hein, cette heure de oisiveté militante. Donc voilà, merci encore, merci Magali.
Merci à tous les deux, merci beaucoup Marcello.
Et puis naturellement, vous l'aurez compris, l'éloge du bug, hein, que nous recommandons chaudement et à retrouver dans toutes les bonnes librairies. À bientôt pour un nouvel épisode de La Tech à l'envers.